Comme vous savez, l'Avent, c'est 4 semaines avant Noël. On sait tous, l'Avent, on a entendu parler de l'Avent, c'est 4 semaines avant Noël pour nous préparer à la naissance de Jésus-Christ. Lorsqu'on était à Table Syntac, on fêtait beaucoup plus les semaines de l'Avent. On avait des chandelles en avant, un peu comme que ça avait montré là. Mais on avait 4 chandelles. On avait 3 chandelles qui étaient violettes et une qui était rose. Et à toutes les semaines, une personne venait, puis on priait pour la chandelle qui représentait ce temps-là de l'Avent. Comme aujourd'hui, ce serait le premier dimanche de l'Avent, alors nous allumerions une chandelle violette qui représenterait la chandelle, soit la chandelle de prophétie, qu'il nous appelle, ou la chandelle d'espérance. « The Candle of Hope ». Et une personne venait en avant et il priait, il donnait une petite dévotion, il priait pour la chandelle et il allumait la chandelle. Comme ça nous dit dans Ésaïe 7, 14. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. La semaine prochaine, ça serait une autre chandelle allumée qui représente la chandelle de la paix. La paix de Dieu parmi nous, comme ça nous dit dans Luc 2, 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix parmi les humains en qui il prend plaisir. La troisième semaine, nous allumerions une chandelle rose parce qu'elle représente la chandelle de la joie, the joy candle. Ésaïe 35, 1 nous dit, le désert et le terrain sec se réjouiront. La plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Alléluia. La chandelle de la joie. Et le 24, nous allumions la chandelle violette encore qui représente l'amour de Dieu, qui, bien sûr, est Jean 3, 16. On lit trop souvent parfois. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble, tout fort? Disons-le ensemble, tout fort. Car Dieu a... Parfois, on les connaît par cœur, on les connaît et on les dit trop vite. Mais lorsqu'on prend le temps de ralentir et regarder les paroles de tout ça, c'est puissant. Dieu a tant aimé le monde. Tant aimé le monde. Dieu nous aime. Merci, Seigneur. Dieu a tant aimé Fern. Don't know how. Mais il m'a aimé. Alléluia. Alors, vous avez besoin de m'aimer. Pas de choix. Merci, Seigneur, qui nous aime. Alors, c'est ça, nous prenions une personne d'en avant, allumait la chandelle, donnait une petite dévotion et on priait. Alors, c'était l'explication de l'Avent. Maintenant, si vous êtes à l'aise dans ce monde, je vous encourage d'oublier l'Avent. Oubliez l'Avent. Attendre et espérer, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Allez juste à Noël, c'est tout. Et laissez faire l'Avent. L'Avent est un moment spécial où on anticipe nos histoires préférées sur la naissance de Jésus. Et si nous le faisons correctement, c'est aussi un moment où nous nous regardons nous-mêmes et notre monde. Et on décide si que nous devrions être à l'aise dans ce monde. Nous ne devrions pas être à l'aise avec le fait que si tant de gens qui sont en train de mourir de faim, et que ça sera encore pareil à Noël pour eux. Comme qu'on a vu deux semaines passées avec les églises persécutées. Est-ce qu'on est à l'aise dans ce monde? Nous ne devrions pas être à l'aise avec le fait que nous sommes peut-être sur le bord de la Troisième Guerre mondiale. On ne sait pas. Est-ce que nous devons être à l'aise avec tout ce qui se passe? Nous ne devrions pas être à l'aise avec les choses qui sont en train de se passer dans notre pays. Mais l'autre choix que nous avons, c'est de faire confiance à un roi qui est né dans une étable et qui enseigne que les gens qui font confiance à Dieu ne devraient pas se soucier de leur statut ou de leur bien-être dans ce monde. Et aussi, il s'est fait crucifier pour avoir dit la vérité à des gens qui étaient complètement à l'aise dans le monde qu'ils connaissaient. Les décorations de Noël ont commencé. à apparaître pas mal partout. Les enfants commencent à être un peu agités, un peu excités. Les enfants, vous savez, adorent ce temps d'attendre pour Noël. Car il leur donne quelque chose à atteindre avec impatience. On aime tous vraiment quelque chose d'excitant et de bon à attendre impatiemment. On aime ça, l'attente. C'est une raison où l'on attend avec impatience la célébration de la naissance de notre Sauveur. Mais ça peut être encore beaucoup plus que ça. Ce temps de l'attente devrait faire partie de la vie que le chrétien vit chaque jour de l'année. Les versets que nous avons lus sont pleins d'attente. Paul nous dit dans Romains, « Et à nous, Paul dit aux Romains et à nous, d'attendre avec hâte de quelque chose que Dieu va faire. » On a vu les versets. Il nous dit, « Vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. » Wow! C'est qu'est-ce que vous pensez que Paul voulait nous dire avec ça? Si vous êtes sauvés, la plupart d'entre nous se souvient le jour où nous avons cru pour la première fois, n'est-ce pas? Le jour où nous avons accepté la foi chrétienne et nous avons appelé ce jour-là le jour où j'ai été sauvé, le jour où le Seigneur m'a sauvé. Mais voici que Paul ici écrit aux croyants et leur dit que leur salut est encore dans l'avenir. Il dit « Le salut est plus proche de nous maintenant. » Une chose que Paul doit avoir à l'esprit, c'est la croyance qu'il y aura un jour du Seigneur à venir, lorsque Jésus reviendra et que tous les plans de Dieu pour le monde seront accomplis. Paul croyait que ce jour viendrait dans la vie de beaucoup de personnes en qui il écrivait. Mais avec toute évidence, bien sûr, ça ne s'est pas produit. Et pourtant, les écrits de Paul reflètent le fait qu'il y a une direction précise vers un accomplissement futur qui fait partie de notre foi chrétienne. Paul croyait que Dieu apportera une nouvelle époque de justice, un nouveau jour où tous les plans de Dieu pour nous et pour notre monde seront accomplis et que nous vivons maintenant au début de ces jours. Nous vivons au début de ces jours. Cette croyance se reflète dans ce que Paul a écrit dans Romains 8. Dans ce chapitre de Romains qui est important, il parle en effet du salut comme quelque chose qui a été donné aux croyants. Il nous dit dans Romains 8, 1, « Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Un peu plus loin dans Romains 8, 15, 17, il nous dit « Quand nous crions « Abba, Père, c'est cet esprit même qui rend témoignage à nos esprits et que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes alors héritiers, héritiers de Dieu et héritiers de Jésus-Christ. » Alléluia. Alléluia. Et enfin, il nous dit, rien dans toute la création, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu dans le Christ, Jésus notre Seigneur. Même dans ce chapitre, il parle d'un souhait et d'un mouvement vers un salut futur. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels. Romains 8, 11. Et encore un peu plus loin, il nous dit, « Et nous-mêmes, qui avons la prémisse de l'Esprit, nous gémissons intérieurement dans l'attente de l'adoption, de la rédemption de notre corps. » Alléluia. Alléluia. En toute évidence, notre salut est quelque chose qui est toujours en cours, qui va toujours, mais aussi quelque chose que nous pouvons attendre pour, quelque chose qui s'en vient. Mais notre leçon aujourd'hui vient d'une partie de la lettre dans laquelle Paul ne parle pas principalement du salut personnel, mais de la participation de la communauté chrétienne aussi, de la communauté plus large dans laquelle il vivait. Toujours dans Romains 8, Paul indique clairement que le mouvement vers l'accomplissement du dessein de Dieu a des dimensions sociales. Romains 8, 19 à 22 nous dit, « Car la création attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu, car la création a été soumise à la futilité, non pas de sa propre volonté, mais par la volonté de celui qui l'a soumise, dans l'espoir que la création elle-même sera libérée de son esclavage, de la décadence et obtiendra la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous savons que toute la création gémit ensemble dans les douleurs de l'enfantement jusqu'à présent. » Amen. Amen, amen. On comprend ces versets-là encore meilleurs en 2025, 2024, quand qu'il est croyant dans 1903 ou 1902. Il semble qu'on comprend ces versets-là encore meilleurs aujourd'hui. Dieu est donc à l'œuvre dans toute la création pour la faire avancer vers un salut futur. J'espère qu'on puisse avoir une vision suffisante de quoi ce que Paul veut nous dire. Paul veut nous montrer et veut nous exciter à ce sujet, à l'évangélisation que nous avons parlé à propos ça fait 3 ou 4 mois. Excuse-moi. Excuse-moi. C'est ce que nous avons parlé à propos depuis 3 ou 4 mois, l'évangélisation. J'espère que le Seigneur nous mette ça à cœur et que ça demeure. Cette vision peut nous aider à comprendre ce que nous faisons lorsque nous célébrons la saison de l'Avent. Nous voici maintenant, presque 2000 ans après la naissance de Jésus, participant à une autre fête qui a à faire avec l'attente. L'attente de la venue du salut. Oui, le Sauveur est venu et le don du salut a été donné. Mais la différence que ce don est censé de faire dans nos vies et dans notre monde est quelque chose qui n'a pas encore été réalisé. Comprenez? Amen. Ça n'a pas encore été réalisé. Nous sommes dans l'attente. Cet accomplissement est quelque chose que nous devrions attendre, espérer et attendre avec impatience. Et nous sommes appelés à participer à l'œuvre de Dieu pour accomplir, pour amener le salut, notre salut, à son achèvement. C'est pour ça que nous sommes à l'œuvre avec Dieu pour l'avancement de son royaume en témoignant, en évangélisation, en évangéliser, en priant pour les âmes, priant pour les âmes qui sont perdues. Nous sommes à l'œuvre avec le Seigneur. Dans notre lecture aujourd'hui, Paul dit, « Réveillez-vous, c'est presque le matin. Préparons-nous à vivre une vie qui convient aux nouveaux jours qui s'en viennent. Laissons de côté les œuvres des ténèbres. Laissons de côté les choses qui peuvent nous éloigner de lui. Au lieu de ça, revêtons-nous du Seigneur Jésus. Revêtons-nous d'une vie nouvelle en lui, comme nous revêtirons un vêtement neuf. Et ne prenez aucune tendance dans une mode de vie qui vous éloignera de lui. » J'aime beaucoup le dernier verset qu'on a lu. Ça nous dit, « Ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire sa convoitise. » I like that. Notre nature propre a des tendances qu'on ne veut pas. Amen. Elle a des tendances qu'on ne veut pas. Ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire sa convoitise. Est-ce que nous pouvons regarder un peu plus proche quoi ce que ça signifierait pour nous de vivre dans ce genre d'attente active? Peut-être ça peut nous aider pour comprendre ce que Paul veut nous dire. Qu'est-ce que ça signifierait pour nous de vivre comme si nous croyons que Dieu est à l'œuvre dans notre monde pour amener le monde entier à une vie nouvelle? Je pense que pour une chose, ça signifierait qu'on pourrait adopter une attitude beaucoup plus positive envers le déroulement de l'histoire humaine que beaucoup d'entre nous ont. On attend beaucoup d'histoires, on attend beaucoup de choses négatives, mais je pense que si on voit le résultat d'accepter le Seigneur, on serait beaucoup plus positif. Ce qui se passe dans ce monde, ce n'est pas réel. Ce qui s'en vient, c'est réel. Vous vous souvenez d'où des choses qu'autour de l'année 2000, vous avez peut-être oublié. Mais ça causait toute une peur lorsque ça arrivait. Vous vous souviendrez que l'approche de 2000 ans, de l'année 2000, quelqu'un s'est rendu compte qu'on s'attendait à ce que tous les ordinateurs du monde allaient être détraqués. Vous vous souvenez? That's it. C'est fini. Dans une société dépendante de l'ordinateur, nous pensions vraiment que cela allait plonger le monde dans un chaos complet. Cette anxiété, ainsi que la pensée des vieilles superstitions primitives, très primitives, sur l'arrivée d'un nouveau millénaire, ont provoqué la peur sur beaucoup de gens. Certains gens se préparaient pour l'année 2000 d'une manière qu'on se rappelait de la façon dont certaines personnes se préparaient pour la guerre nucléaire, avec la nourriture et de l'eau accumulée pour une couple d'années. Même aller peut-être sous la terre. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait fait un trou dans la terre. Ouais. Anyway, you know. En y repensant, tout ça semble très stupide. Mais cela a causé beaucoup de problèmes lorsque ça s'est produit. Vous savez, beaucoup de gens attendent toujours l'avenir avec la même genre de crainte. C'est inconnu, alors ils considèrent que c'est dangereux. Mais le chrétien devrait regarder vers l'avenir avec une confiance qui vient de la connaissance que l'avenir est entre les mains de Dieu et que Dieu sera à l'œuvre pour notre salut comme il était avant et comme il va l'être dans l'avenir. Amen. Le Seigneur est avec nous, dans les bons temps, dans les mauvais temps. Ça ne veut pas dire que l'avenir est toujours être contré comme nous apporter des bonnes choses. En examinant les choses qui se sont produites depuis l'année 2000, nous verrons que certaines d'entre elles ont été bonnes et d'autres n'ont été pas si bonnes. On se souvient de 9-1-1, hein? 9-1-1, c'était presque aussi grave qu'une guerre nucléaire. On a vu Israël enveloppé dans un conflit qui a donné un nouveau sens au psalmiste qui dit « Priez pour la paix de Jérusalem », encore aujourd'hui. On a vu le COVID, pas si bon. On a vu l'engagement de notre pays en Irak. Mais dans toutes ces choses, nous pouvons être certains que Dieu est toujours à l'œuvre pour sortir le bien du mal et une nouvelle vie de chaos et de la mort. Nous pouvons adopter une attitude pareille envers notre propre vie. Lorsque nous sommes très jeunes, c'est facile de rester enthousiaste quant à l'avenir, car chaque jour semble apporter une nouvelle expérience ou quelque chose de nouveau, une nouvelle possibilité, au moins dans le cas des jeunes qui sont les plus fortunés, comme nous. C'est vrai pour beaucoup de nous. Mais parfois, au fur et à mesure que la vie avance, les choses commencent à ralentir. Les choses commencent à ralentir. On peut se demander que la vie, ça semble same old, la même affaire. Les tempêtes et tous les problèmes qui se sont découlés peuvent nous arrêter d'envisager l'avenir avec beaucoup d'anticipation, parce qu'on a eu si tant de problèmes. Nous pouvons avoir un mal à trouver une raison pour nous être encouragés pour l'avenir. Mais tant que nous savons que Dieu est à l'œuvre dans nos vies pour nous conduire vers l'accomplissement de meilleures possibilités pour nous, nous pouvons savoir que nous devons aborder chaque jour prêts à découvrir une surprise qu'il y a encore pour vous. Chaque jour, le Seigneur a quelque chose de merveilleux pour nous, chaque jour. Lorsque l'aventure de notre jeunesse est terminée, lorsque nous réalisons que nous avons monté l'échelle de notre carrière à peu près aussi haut qu'on pouvait, là, lorsque certaines limites nous obligent à réaliser qu'une porte de ce qu'on avait toujours espéré s'ouvrir, ne va pas s'ouvrir, alors beaucoup ont appris de s'arrêter et regarder autour d'eux et à explorer d'autres dimension de la vie. Beaucoup de ceux qui l'ont fait ont trouvé Dieu à l'œuvre encore, leur ouvrant de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités inattendues. Beaucoup ont découvert que lorsqu'ils sont allés aussi loin qu'ils le pouvaient, dans la poursuite de ce que Paul appelait la vie de la chair, et qu'ils ont atteint un point de succès, une limitation ou une délusion, alors ils peuvent découvrir que Dieu est là pour les conduire dans une nouvelle aventure, que Paul a appelée la vie de l'Esprit. Dieu a toujours plus à nous offrir dès que nous sommes prêts à le recevoir et dès que nous sommes prêts à travailler avec lui pour l'atteindre. La promesse que Dieu sera là pour notre avenir peut continuer l'œuvre de notre salut, s'étendre même dans des conditions de vie que la plupart des gens pensent être complètement enlevées de possibilités. Un alcoolique qui touche le fond de la bouteille peut penser qu'il est au bout du câble. Mais ensuite, avec l'aide du Seigneur, il ou elle peut découvrir non seulement le chemin de la sobriété et la santé mentale, mais aussi le chemin vers une vie nouvelle, spirituelle, et qu'il n'y aura jamais cru avant. Je parlais avec un bon ami cette semaine, puis ça peut arriver aussi à des personnes qui sont prises dans le gambling. Amen. On en connaît. Ils sont prises dans le gambling, mais le Seigneur les a trouvé un autre chemin. Plus de personnes qui ont fait un cancer, parfois même un cancer en phase terminale, a attrapé une nouvelle vision de vrai sens de la vie qui leur a permis de rendre les dernières heures de leur vie encore meilleures que les premières. Vous savez, la promesse s'étend même au-delà de notre vie. Hein. Dieu n'est pas limité par notre mort. Nous pouvons même oser approcher la fin de notre vie avec une grande attente. Pour nous, c'est difficile de comprendre le retard de Jésus, parce qu'il va revenir. L'horloge de Dieu n'est certainement pas synchronisée avec la nôtre. Comme l'histoire du petit Jimmy qui a appris un jour, alors qu'il était allongé sur une colline, d'après d'allonger, il aimait la journée au milieu d'une prairie, une belle journée de printemps. Il était couché, il regardait vers le ciel, des gros nuages blancs gonflés autour de lui, et il réfléchissait à quoi que ce soit. Bientôt, il a pensé à Dieu. Il dit, Dieu, en haute voix, il dit, Dieu, est-ce que tu es vraiment là? Il y a une voix qui est venue, puis Dieu a dit, avec un étonnement, oui, Jimmy, oui, je suis là. Qu'est-ce que tu veux, Jimmy? Wow, saisir la saison, il dit. Dieu, il dit, à quoi ressemble un million d'années pour toi? Sachant que Jimmy ne pouvait pas comprendre le concept de l'infini, Dieu a résolu d'une manière à laquelle Jimmy pouvait s'identifier avec. Il dit, Jimmy, un million d'années pour moi, c'est comme une minute. Bien. Alors, à quoi est-ce que ressemble un million de dollars pour toi, Seigneur? Un million de dollars pour moi, Jimmy, c'est comme un sou. Wow, really? Une bonne idée. Bien, il dit, toi, il dit, Dieu, il dit, t'es si ton généreux, est-ce que je pourrais avoir un de ces sous? Dieu lui a répondu, Jimmy, oui, tu peux l'avoir. Attends une minute. Notre texte ce matin semble ne pas être un message pour l'avant. On n'a pas parlé de Marie, de Joseph, des rois mages, des bergers. Mais au lieu de cela, c'est une leçon sur le fait d'être prête et de se préparer. L'avant, c'est une saison de préparation pour la grande fête, pour la naissance. Oui, on va attendre les mêmes histoires. Mais comme j'ai dit, si nous gardons un peu plus proche à notre vie, peut-être qu'on pourrait les comprendre encore mieux pour nous. Notre vie. Est-ce qu'on peut se lever debout, s'il vous plaît, ce matin? Je vais demander à José d'apporter un chant lorsqu'on va se préparer encore pour la Sainte Cène. regardez vos cœurs, s'ils sont prêts pour le temps de l'Avent, s'ils sont prêts pour passer un temps, s'ils sont prêts même pour recevoir la Sainte Cène. Amen. Alléluia.